Il est 7h20 à Paris et en cette fin 2021 flotte comme un air de 2020 aux quatre coins du monde. Alors que le variant Omicron s'installe, près de 8000 vols annulés ce week-end, des frontières qui se referment et des records de contamination qui s'enchaînent dans certains pays. La barre des 100 000 tests positifs en 24 heures franchie pour la première fois en France samedi. Plus de 122 000 au Royaume-Uni vendredi, 171 000 par jour en moyenne la semaine dernière aux États-Unis où les hôpitaux commencent à être saturés. Pour faire le point ce matin, notre invité est virologue et spécialiste des virus émergents au CNRS. Bonjour Étienne de Crolly.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Je donne à l'instant quelques chiffres. Sommes-nous aujourd'hui au devant d'une vague sans précédent et incontrôlable ?
Alors, en tout cas, en ce qui concerne le nombre de cas qu'on va voir et détecter par PCR ou par les autres tests, on est clairement face à une vague qui est sans précédent en termes de rapidité et d'intensité. Par contre, en ce qui concerne l'hospitalisation et les cas sévères, la réponse est probablement un petit peu moins tranchée, dans la mesure où aujourd'hui, heureusement, on a un vaccin qui maintient une immunité partielle par rapport à ce nouveau variant, et en particulier lorsqu'on a eu 3 doses, et ce qui, on espère, va faire que la maladie va être un petit peu moins sévère chez les patients, et donc ce qui va...
Même si elle va toucher plus de monde, et qu'elle va donc mathématiquement potentiellement entraîner plus de formes graves.
Voilà, et donc l'équation qui est complexe, évidemment, c'est de savoir comment le produit d'un virus qui, d'une part, se contamine beaucoup plus, ce qui est une mauvaise nouvelle, mais d'autre part, qui est un petit peu moins virulent, quel va être le produit de l'équation. Et ce qu'on voit, en tout cas, c'est que l'intensité avec laquelle la vague arrive, et surtout le fait que la vague arrive dans un contexte où on est encore dans la vague précédente, qui est la vague de variant Delta, qui ne s'est pas complètement atténuée, eh bien, on va évidemment aller vers un système de tension extrême pour les hôpitaux, ça c'est en tout cas assuré.
Alors les restrictions s'enchaînent, notamment en Europe, juste après Noël et juste avant le Nouvel An. En France, Emmanuel Macron tient aujourd'hui un conseil de défense sanitaire, que ce soit en France comme partout. Quelles sont les mesures à prendre aujourd'hui face à ce variant ?
Les mesures ne sont pas différentes des mesures précédentes. C'est qu'on n'a toujours pas de médicaments qui permettent de traiter de manière efficace tous les patients. On a toujours la problématique d'une maladie où une partie des patients sont asymptomatiques. Et donc, en cas de pic comme ça, malheureusement, on est relativement démunis. Et donc, les mesures immédiates à prendre sont évidemment des mesures du type confinement des personnes, volontaires ou contraints. Et il n'y a pas grand-chose à faire en plus de la vaccination, évidemment, qui est un enjeu capital. Mais ce qu'on voit, c'est que bien que cette vaccination soit tout à fait étonnante dans le sens où elle protège très bien les formes graves, malheureusement, elle ne permet pas de protéger de la transmission et de l'infection complètement des personnes. Partiellement, elle protège, mais pas complètement. Et donc, ça nous met dans une difficulté parce que la stratégie était reposée sur l'essentiel des efforts sur la vaccination, et on voit bien qu'aujourd'hui on va devoir avoir d'autres leviers pour pouvoir mieux contrôler la circulation du virus.
Il y a une donnée inquiétante qui nous vient ce matin des États-Unis. À New York, les admissions d'enfants à l'hôpital ont quadruplé en une semaine. La moitié des enfants hospitalisés ont moins de 5 ans. Le risque était jusqu'ici faible pour eux. Sont-ils aujourd'hui plus en danger ?
Oui, c'est quelque chose qu'on observe, c'est que ce virus est différent moléculairement des variants précédents. Il infecte mieux certains types cellulaires et moins bien d'autres. Et une des conséquences qu'on a observées, entre autres déjà en Afrique du Sud, c'est que ce virus touche davantage les plus jeunes et envoie davantage les plus jeunes dans les hôpitaux, alors que les personnes plus âgées ne semblent pas être davantage envoyées dans les hôpitaux, mais même plutôt un petit peu moins. Alors il y a peut-être un biais de vaccination, évidemment, dans cette observation, parce que les plus jeunes sont évidemment beaucoup moins vaccinés et aucun n'a reçu 3 doses, alors que les personnes âgées ont reçu maintenant 3 doses, ceux qui étaient motivés pour la 3e dose. Et donc ça induit un biais, hein. Ce n'est pas peut-être pas intrinsèque au virus, c'est peut-être juste en raison simplement du fait que le statut vaccinal est différent en fonction de l'âge et du risque des patients.
Étienne de Crolly, ça fait 2 ans maintenant que le Covid circule. On espérait s'en sortir avec les vaccins. Est-ce que ces espoirs s'envolent avec Omicron ? Arrivera-t-on vraiment un jour à se débarrasser du Covid ?
Alors, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est qu'on va pouvoir mieux contrôler le Covid, parce que l'immunité est en train de s'installer dans les populations par la vaccination d'une part, mais également par des gens vaccinés qui vont être infectés et qui vont faire des formes moins sévères. Et puis, les personnes non vaccinées sont petit à petit toutes contaminées. Ils vont également acquérir de l'immunité. Et donc,
mais Omicron réinfecte plus d'anciens patients, dit-on.
Oui, il réinfecte plus, bien sûr, mais probablement que ces gens font moins de formes sévères. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que sur le moyen terme, on arrive à un statut de ce virus qui ressemble plus au statut du virus de la grippe, c'est-à-dire avec des épidémies saisonnières, probablement fortes dans les premières années et moins fortes plus tard, parce qu'il y aura encore des variants qui vont apparaître, c'est évident. Mais quand même un meilleur contrôle. Mais en tout cas, j'attire l'attention sur le fait qu'évidemment, il y a toute une série de mesures à prendre maintenant dans les transports en commun, par exemple, dans les écoles, dans les lieux publics, de manière à mieux recycler l'air. Il faut distribuer des meilleurs masques plutôt que les masques classiques, des masques du type FFP2 pour les gens qui, en période épidémique, prennent les transports en commun, etc., pour pouvoir justement garder des activités dans le contexte d'un virus qui circule de manière abondante et qui est hyper infectieux. Donc on a des mesures supplémentaires évidemment à déployer que la vaccination.
Si on laisse aujourd'hui ce variant circuler massivement, y a-t-il aussi un risque de préparer le terrain à d'autres variants plus forts qui échapperont encore plus au vaccin ?
Mais c'est toujours la difficulté, hein, c'est que la nature des virus est de muter. C'est leur moyen d'échapper au contrôle justement par le système immunitaire des autres qu'ils infectent. Et donc, ce qu'on s'attend évidemment, qu'une circulation intense va générer un grand nombre de variants. Et parmi ces variants, heureusement, la grande majorité sont moins efficaces et vont disparaître. Mais de temps en temps, on peut être dans le contexte où il y a un nouveau variant qui apparaît. On le voit bien ici dans la vague qui apparaît. Et surtout, le risque qu'on a aussi quand le virus il circule aussi abondamment avec deux vagues qui sont concomitantes, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des recombinaisons, c'est-à-dire des virus chimériques qui apparaissent et qui résultent en fait d'une partie qui vient d'un des virus qui circule et d'une partie d'un autre virus qui circule. Et donc ce risque évidemment doit être pris en compte et c'est pour ça que l'objectif doit toujours être de limiter au maximum la propagation du virus du point de vue virologique évidemment, de manière à s'affranchir justement de l'arrivée de nouveaux variants.
Et on en vient évidemment à la question de l'équité vaccinale avec cet avertissement du patron de l'OMS la semaine dernière. Aucun pays ne sortira de la pandémie à coup de dose de rappel. Personne ne sera protégé tant que tout le monde ne sera pas protégé. Est-ce qu'il faut aujourd'hui lever les brevets sur les vaccins comme le demande un certain nombre de pays depuis un an maintenant?
Alors, mon opinion personnelle, c'est qu'effectivement, les vaccins doivent être à disposition le plus rapidement possible de l'ensemble de la population terrestre. Et donc, ça implique évidemment soit que les pays les plus riches financent ces vaccins au travers des compagnies pharmaceutiques pour les pays qui sont les moins riches, ou évidemment, on peut voir ça sur le moyen long terme, sur une levée des brevets sur le vaccin, de manière à ce qu'un ensemble de pays puissent se mettre à produire de manière efficace ces vaccins, de manière à les distribuer dans la population. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que ça ne va pas être aussi rapide que ça si on lève les brevets.
Merci Étienne de Crolly d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes virologue et spécialiste des virus émergents au CNRS. Très bonne journée à vous.